Française.
Sauf événement imprévu.
Les rumeurs, les calomnies, les ragots.
Les armes vont parler. Parler.
Donc retour dans nos studios pour une émission enregistrée donc vendredi en fin d'après-midi depuis le bar de la Vieille Porte rue de l'Université à Montpellier et qui sera diffusée donc lundi. Quoi qu'il en soit, souvenir, souvenir. Le monde bouge, le monde change. Si on se permet un petit voyage dans le passé, ne serait-ce que 10 ans en arrière, rien n'est plus tout à fait comme avant, notamment en matière électorale. Depuis 2002, plus de 5 millions de Français sont morts. Et durant cette même période, 7 millions de jeunes, même un peu plus, ont atteint l'âge dit de la majorité. Vous en êtes. Tant et si bien que les 47 millions d'inscrits sur les listes électorales aujourd'hui ne sont pas les mêmes, pas du tout, que ceux de 2002. Pour qui votaient les vieux qui sont morts? Pour qui voteront les jeunes adultes que vous êtes mais qui n'avaient pas voté jusqu'à présent? Réponse dimanche 22 avril dans les urnes. Et encore, je ne parle pas des cinquantenaires de 2002 qui sont maintenant pratiquement à la retraite. Votent-ils toujours de la même façon depuis que la crise est passée par là? Enfin, quoi qu'il en soit, faire une projection de vote, les sondages, en fonction du nombre de voix et non de pourcentage, semble peut-être plus pertinent. Et à ce sujet, je ne serais pas étonné que le renard ait son mot à dire. À toi, le renard.
Mais je vais vous livrer quelques réflexions. Les commentateurs dits politiques, experts de longue date sur les étranges lucarnes, ont guetté le résultat inattendu pour pronostiquer la surprise possible, pour prévenir avant tout le monde un nouveau 22 avril 2002, dans un sens ou dans un autre, ou dans les deux. Non, a priori, il n'y aura pas de Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon. Qui sera alors le troisième ? Les commentateurs dits politiques s'affairent pour être celui qui donnera avec le plus de précision le tiercé dans l'ordre. Après avoir détaillé la forme, l'allure, le train, le jarret et l'encolure des candidats, au départ, surveiller leur régime alimentaire, leurs regains et baisses d'énergie, analyser leur stratégie de course, prévenir leurs écarts, ils annoncent des accélérations ou du ralentissement calculé à la lumière des chronos et des temps de passage qui s'appellent les sondages. Malheureusement, dans cette campagne électorale, nous avons très peu entendu parler de politique et de programme politique. Chaque année, effectivement, ça a été dit, il y a 842 000 environ jeunes qui s'inscrivent sur les listes électorales. Depuis 2002, ils sont aujourd'hui plus de 4 millions de primo-votants à la présidentielle. Et ils représentent quand même 9% du corps électoral. Et je pense qu'il est encore temps de savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils souhaitent. Et je suis étonné de ne pas vous entendre les uns et les autres, justement parce que vous représentez l'avenir, de ne pas vous projeter, de rester sur ce qui est, et de ne pas faire état, justement, de vos ambitions, de vos souhaits, de ce que vous souhaiteriez et qui expliquerait, en quelque sorte, votre engagement aujourd'hui.
Bon, suite à ce billet, et avant de parler d'avenir, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de passé, qu'on retourne un peu, justement, vers le passé, pour les uns comme pour les autres. Je vais vous donner une petite litanie de noms. J'aimerais bien que vous me disiez ces noms-là, ça vous inspire quoi? Éventuellement, des noms que je n'aurais pas cités, de me dire, mais vous avez oublié un tel ou un tel, pourquoi pas. De Gaulle. C'est l'homme qui muta du 18 juin au 13 mai. Mitterrand. L'homme lige de Pétain, devenu le fossoyeur du Parti communiste. Lénine, le faiseur de Staline déguisé en uburois de la Russie soviétique. Pétain, le héros de Verdun qui se perdit à Vichy. Et Cohn-Bendit, le jeune devenus vieux. Vous avez quoi, ces gens-là qui ont fait l'histoire de ces, en gros, 50 dernières années, c'est pas les seuls, il y en a eu d'autres. Ils vous inspirent quoi? Alors, je sais pas, tiens, allez, on va le faire dans le désordre. Mairie, De Gaulle, c'est l'homme du 18 juin ou l'homme du 13 mai?
Alors, pour moi, De Gaulle, c'est quelqu'un, c'est d'abord l'un de mes personnages historiques préférés. Et ça reste pour moi l'homme du 18 juin.
Bah pour que les auditeurs comprennent bien, Mairie est bien au Parti Socialiste.
Hein. Mais vous savez, il existe...
C'est la mode aujourd'hui de récupérer De Gaulle. Même Mélenchon l'a fait hier soir.
Alors pour ma
c'est vrai
part,
que vous l'avez perdu depuis
de...
très longtemps.
Je ne fais pas de récupération vis-à-vis
ouais.
du...
C'est pas bien.
Oui, mais elle fait partie de l'histoire de France.
Laissez
comme
parler
De Gaulle.
Laissez parler Mairie, comme,
pardon.
Oui, donc pour ma... Je disais que pour ma part... Pour ma part, je ne faisais pas de récupération vis-à-vis du général D'accord. De Gaulle. Non, pour moi, donc, je le disais, donc, le général De Gaulle, c'est celui qui se sera élevé contre le fascisme durant la Seconde Guerre mondiale et qui aura donc incarné un certain nombre de valeurs que je défends aussi au quotidien, qui sont la lutte contre les idées xénophobes, contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Donc c'est, pour moi, le général De Gaulle a incarné ce combat avec notamment d'autres personnages importants comme...
De Gaulle contre l'homophobie, je suis pas sûr.
Pardon ?
De Gaulle contre l'homophobie.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, oui. Après, quand il a été président de la République, par rapport à ses, effectivement, ses positions assez conservatrices, oui, effectivement. Mais en tout cas, il les a incarnés quand il a été à la tête de la résistance française. Et puis, De Gaulle, pour moi, c'est aussi celui avec son gouvernement, avec le Conseil national de la Résistance, qui aura mis en place la sécurité sociale, le système de protection sociale. Donc, ça reste tout ça à mes yeux. Et puis après, je ne sais pas si je continue à faire ou chacun...
De Gaulle, oui, on va faire un peu dans le désordre. D'accord. Tiens, Clara, parce que je l'ai vu tiquer quand j'ai dit Mitterrand, l'homme liche de Pétain, devenu le fossoyeur du Parti communiste.
Je parle de qui? De Mitterrand ou de Gaulle?
De Mitterrand.
Normalement, elle devrait être très méchante. Logiquement.
Alors, Mitterrand, c'est l'homme liche de Pétain ou c'est le fossoyeur du Parti communiste ou c'est les deux à la fois?
C'est un peu les deux. Mitterrand, c'est à la fois quelqu'un qui a quand même fait, on ne peut pas le nier, personne ne peut le nier, qui a quand même fait des grandes choses quand il a été au pouvoir. L'abolition de la peine de mort, c'est quand même Mitterrand, donc on peut pas nier tout ce qu'il a fait non plus. Mais après, c'est vrai que son passé vichiste, on l'évoquera pas, parce que c'est un peu bête de taper sur Mitterrand, ça apporte pas grand-chose à mon sens. Mais après, voilà.
C'est pas le taper, ça s'appelle le devoir de mémoire, ça.
Oui, le devoir de mémoire, Mitterrand avait un passé vichiste, il avait un passé vichiste. C'est fait.
Vous alliez au second tour avec les héritiers de
non,
quelqu'un
bah non,
qui avait
non,
ce passé-là.
Non, parce que pour moi, les socialistes aujourd'hui sont pas des gens
facile,
qui ont été vichistes avant.
François Hollande se réclame à tort et à travers.
Non,
ça ne l'a pas empêché ensuite de défendre des valeurs républicaines quand il a été président de la République en 1981.
Non, mais après, oui, voilà, par rapport à Mitterrand, fossoyeur du Parti communiste, c'est vrai, il avait annoncé que son but, c'était de faire le programme commun pour récupérer des voix aux communistes, c'est certain.
Et allez quand même donner vos voix au second tour à
mais,
celui
mais
qui
mais
a...
Mais au second tour, on y sera. On n'aura pas besoin de donner nos voix à François Hollande.
Alors si vous y êtes, l'intérêt est sauvé.
Ça, c'est le futur, et ça, on va en parler dans la troisième partie de l'émission. Allez, tiens, Romain, je l'ai mutiqué là-dessus.
Ils ne sont pas...
Romain, comme vous dites, c'est le jeune devenu vieux?
Non, il a toujours été vieux. Et réactionnaire même. Mais à mon avis, là, il n'y avait que des figures du passé, à part De Gaulle. Et on voit qu'il est très à la mode en ce moment, puisque voilà, Mélenchon le reprend. Tous les candidats quasiment à la présidentielle se revendiquent par certains côtés du gaullisme. À mon avis, le seul...
Même Sarkozy. C'est peu dit.
Même Sarkozy, c'est celui qui a, à mon avis, le plus de légitimité. Puisque
Alors ça, on pourrait en discuter.
De Gaulle tout seul
est aujourd'hui le représentant de
toute façon, c'est le bazar. Chacun votre tour.
Il prend De Gaulle en otage alors qu'il est mort. Bravo.
Et vous prenez Jeanne d'Arc qui est morte depuis 3 siècles.
Bravo.
Non, mais c'est bien.
Nous n'avons pas réservé Jeanne d'Arc.
Mais au moins, c'est plus facile.
Vous réservez De Gaulle, mais ça en devient pitoyable.
Non, Pascal.
Et de réserver qui que ce soit.
Chacun son tour. Chacun son tour, sinon on ne vous entend plus.
D'accord. Mais
quelle honte.
Mais vous voulez la France toute seule. Et la France ne peut plus être toute seule.
Nous voulons le concert des nations. Nous ne voulons pas.
Le concert des nations avec les frontières fermées.
Mais vous avez,
vous aurez du mal à faire un concert.
Vous êtes une parodie.
En isolant chaque partie de l'orchestre.
Vous faites une parodie.
Mais c'est vous la parodie, la surenchère. Tous les jours, on le voit. Tous les jours.
Qui vous êtes pour parler comme ça? C'est le bordel à droite.
Non, à droite tout va très bien. Pour moi, l'extrême droite ne fait pas partie de notre grande famille de droite.
Qui vous êtes pour parler comme ça au parti qui représente
pas parce que vous criez plus fort et avec un ton détestable que vous
avez 5 ans. Cela fait on ne vous entend pas. On ne vous entend pas.
Quand les choses, vous ne voulez rien comprendre. Et ça fait 5 ans que vous mettez
vous
les Français dans la panade.
Mais c'est la même. C'est alors la même. Là, et personne n'est dupe.
Et là, mais
elle se retrouve 4e à l'élection.
Nous, on avait Sarkozy, vous mettez Sarkozy. Quel changement
en 5 ans. Le deuxième mandat, c'est celui de la maturité.
Ah oui, alors on va passer du candidat
à on passe de Le Pen à Le Pen.
Ah ben bravo.
Alors attendez, parce que maintenant, on a un nouveau venu. Il a eu un coup de mou, mais il est arrivé, Pierre-André. Donc,
il y a des radars à la table.
Qui représente le modem. Non, on a coupé le micro du modem.
Vous m'entendez ou pas?
Voilà, maintenant on t'entend. Bon, salut Pierre-André. Donc pour le modem, à propos justement de tous ces anciens, De Gaulle, Mitterrand, Lénine, que j'ai pu citer, Cohn-Bendit, Pétain...
Non, mais
on a entendu Jeanne d'Arc.
C'est intéressant, on voit que les passions déchaînent toujours les foules. Non, ce que j'avais envie de faire un parallèle entre justement entre deux de ces personnages, entre De Gaulle et Pétain, et ce que je vois à l'heure actuelle. On est à l'heure actuelle face à des choix, et le moment où il faut savoir si on doit prendre la route facile. Si on doit suivre ce qui se fait depuis des années, savoir si on doit suivre un mouvement
fort. Il va nous faire
un
chemin de croix.
Oui, non, mais peut-être. Vous verrez.
Je crois qu'il est déjà, il est déjà à la 10e station.
Pas que c'est fini.
Il est bien parti pour la crucifixion.
Moi, je vois d'un côté De Gaulle qui a su s'élever face à la volonté populaire. Les gens, il était beaucoup plus facile d'être collabo à l'époque que d'être dans la résistance. De Gaulle a su incarner ce mouvement de résistance.
Le modem aujourd'hui parle de résistance.
Oui, c'est pas facile d'être du modem aujourd'hui.
Aujourd'hui, à l'heure actuelle, depuis 20 ans, les deux partis majoritaires qui bipolarisent la vie politique, avec d'un côté la droite, d'un côté la gauche,
et au
final, aujourd'hui, on a un pays qui est dans un état, je dirais, j'ose utiliser le mot pitoyable. Voilà.
Oui, et quand on vous donne un poste de un ministère ou des petites circonscriptions, vous dites pas non.
Si vous étiez renseigné, sachez que les amis de Monsieur Ferrara font miroiter des postes depuis des années. Il y a eu des propositions alléchantes.
Et on vous les donne pas, c'est ça?
Des propositions alléchantes depuis des années.
Vous avez fait de belles propositions aussi.
Nous avons choisi la voie de l'indépendance, Monsieur Loubet. Oui,
vous avez choisi l'indépendance. Et quand François Bayrou était ministre, il a choisi l'indépendance.
Comment?
Quand François Bayrou était ministre, il a choisi l'indépendance. Il s'est battu tout seul dans son ministère.
C'était à l'époque du RPR et d'après les.
Qui a remplacé le RPR?
Il a fait un très bon travail.
Je vous interromps. Pascal, je vous interromps. Il y a quand même une chose là qui me frappe par rapport à peut-être cette émission que vous avez entendue en début de semaine sur France 4. Où un panel de jeunes option Starac avait été sélectionné représenter la jeunesse française. Et au bout du compte, il y avait
parodie,
ensuite une espèce de vote et tout pour qui pourrait être le futur président de la République. Enfin bref. Et où il y avait eu des questions de culture générale, où les quatre, sans exception, y compris même celui qui faisait Normal Sup, étaient ignares, incultes, analphabètes, voire illettrés. Et n'avait aucune connaissance, aucune, du passé. Je remarque que quand même, vous avez des références au niveau du passé. C'est-à-dire que De Gaulle, Mitterrand, Pétain, Jeanne d'Arc, Cohn-Bendit et d'autres ne vous sont pas totalement connus, même vous sont connus. En tout cas, vous dérogez complètement à ces quatre jeunes nationaux qui avaient gagné des concours option Starac pour représenter la jeunesse française. En tout cas, bravo, sur le plan régional, c'est pas toujours le cas. Quel héritage vous ont laissé ces hommes-là? Et surtout, et ça c'est ma question centrale, est-ce qu'il faut connaître le passé pour construire l'avenir.
Tout à fait.
Je pense. Oui.
Quel rôle de l'histoire ? À quoi ça sert l'histoire ?
Écoutez,
Pascal, pour le Front National.
Je pense sincèrement que c'est en observant le passé que l'on peut retenir le plus facilement des leçons. L'histoire nous a. L'histoire.
Hein,
non, mais moi je ne vais pas écouter le représentant d'un parti qui collabore volontiers à tous les vents. Moi j'ai mes propos. Vous permettez d'arriver plus d'une heure en retard. Alors
écoutez,
si c'est ça le respect,
moi je ne sais pas.
Enfin bref.
Pierre-André, c'est pas parce que tu es arrivé en retard qu'il faut. Chacun son tour.
Oui, très bien.
Chacun son tour. Pourquoi ? Donc, tout simplement pour que les auditeurs entendent.
Il est essentiel d'observer le passé pour retenir des leçons. Nous avons déjà eu des avertissements par le passé sur des tas de sujets, sur des sujets de l'économie, sur la démocratie.
Les années 30.
Malheureusement. Malheureusement. Non, mais il ne faut pas en rigoler, monsieur. Beaucoup de personnes se sont battues pour notre liberté. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, et le Parti Socialiste a bien repris ça au début, il nous reste peu d'acquis que ce que nos pères nous ont apporté. Il est donc essentiel aujourd'hui de se battre pour les acquis que nous ont permis d'avoir nos anciens.
Alors Romain, est-ce qu'il faut vraiment connaître le passé pour construire l'avenir ?
Oui, ça c'est évident et personne ne vous dira le contraire. Par contre, à mon avis, au-delà de l'histoire, il faut pas s'arc-bouter comme les socialistes sur les acquis sociaux à chaque fois qu'ils font une grève, il faut aussi connaître la géographie. Et quand on voit aujourd'hui
ce qui se passe... Non, je m'en fous de la géographie, je suis historien.
Je
vous pose une question d'historien, il faut que vous connaissiez l'histoire.
L'UMP se préoccupe de la géographie.
J'ai pas demandé s'il faut connaître la biologie, les petites bébêtes.
Il y avait une carte avec la France toute seule au milieu de la carte.
L'histoire.
C'est pas chez nos voisins.
Que disait Nicolas Sarkozy?
Non, Pascal, ta gueule.
Le parti qui représente le plus de
chacun.
Elle est belle, c'est
chacun.
On ne vous entend pas. La parole.
Quand il vous donne en tête, c'est quelque chose de merveilleux.
Absolument pas.
La parole à Romain. La parole à Romain. Non, Pascal, on ne s'entend plus, chacun son tour.
Non, je disais donc que la géographie est aussi importante que l'histoire et que quand on regarde ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Grèce et qu'on voit la situation actuelle de la France, il ne faut pas donner les clés à n'importe qui pour gouverner le pays parce que ce qui arrivait en Grèce, ce qui arrivait en Espagne,
chacun son tour.
Vous dites que vous n'écoutez pas les propos du modèle parce que vous écoutez vos propos, écoutez ceux des autres. C'est pas parce que vous parlez au-dessus de tout le monde.
Allô, coucou, je suis là.
Non, mais c'est insupportable.
Non.
Si on parle entre gens intelligents, vous prenez la porte.
J'ai posé une question.
Arrête, franchement, Pascal.
J'ai posé une question au niveau de l'histoire. Est-ce qu'il faut connaître le passé pour construire l'avenir ?
Bien sûr. Il faut qu'on tire les leçons du passé et qu'on regarde aussi ce qui se passe aujourd'hui autour de nous.
Mais
il faut qu'on regarde le passé, ce qui a été fait en bien ou en moins bien, qu'on regarde dans le rétroviseur pour voir la dette qu'on a laissée.
En quelque sorte, il faut faire les bilans.
Il faut faire les bilans. Et à mon avis, le bilan de ces 5 dernières années n'est pas mauvais quand on voit ce qu'il aurait pu être. Voilà, c'est tout.
Ça, c'est
tout
à faire. Mary, est-ce qu'il faut vraiment connaître le passé pour construire l'avenir ?
Oui, c'est évident, à mon sens, pour en tirer les leçons et aussi pour voir qu'effectivement, ils peuvent avoir des choses qui ont fonctionné par le passé et qui peuvent notamment être réutilisées dans le futur pour pouvoir faire en sorte à ce que les populations vivent mieux. Mais je pense qu'il est indéniable à ce que nous regardons toujours derrière nous pour voir ce qui s'est passé et de pouvoir marcher de l'avant.
C'est pour ça que nous avons observé la préférence nationale et que nous l'avons repris. Ça marche bien.
Clara.
Marx disait « Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre ». Donc, à mon sens, c'est évident que si on ne tire pas les leçons du passé, de ce qui s'est passé pendant la guerre aussi...
T'as vraiment lu Marx ou t'as...
J'ai vraiment lu Marx.
D'accord. Nouvelle version, c'est-à-dire...
Non, j'ai pas tout lu de Marx, mais j'ai lu une bonne partie de...
Non, parce qu'en manga, c'est génial. Ils ont sorti le Capital de Marx en deux volumes, c'est génial.
Est-ce que vous avez regardé dans le rétroviseur ce qui s'est passé en URSS, en
Chine, etc. À mon sens, ce que représente le Parti communiste et le Front de gauche aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé en Union soviétique, je suis désolée.
C'est les seuls exemples qu'on a aujourd'hui. Ou alors on a Cuba.
On peut pas mener le parallèle, je suis désolée. Non, on peut pas faire de parallèle entre l'Union soviétique et ce que veut faire le le Front de Gauche aujourd'hui. C'est totalement différent.
La Corée du Nord, c'est pas du communisme à la base.
À la base, c'était dit comme communiste, mais aujourd'hui, c'est plus du tout communiste.
Je pensais pas
c'est
faire l'erreur. Excusez-moi.
Les communistes sont pour le vivre ensemble et pour l'égalité entre les gens. Alors, je suis désolé, ce qui se passe en Corée du Nord, c'est vrai.
Vous avez un joli monde, il n'y a pas de frontières.
Sauf ceux qui gagnent plus de X milliers d'euros par mois, selon les exclus, et on leur prend tout. Parce que c'est ce qu'a dit Mélenchon.
Oui, je suis désolée. Vous voyez les inégalités qu'il y a en France aujourd'hui.
Et alors c'est pour ça qu'on doit exclure une catégorie de la population.
Vous êtes pour que les riches soient de plus en plus riches et que les pauvres soient de plus en plus pauvres.
Ah non, mais il y a une
je suis désolée,
une marge
je suis
entre les deux.
Là-dessus.
C'est pas pour ça qu'on doit exclure votre tous les gens qui gagnent bien leur vie.
Ne va pas régulariser la situation, hein. Loin de là, mais bon.
Alors, on va déborder un petit peu le débat. On va prendre les choses légèrement autrement.
Je pose pas la question.
Si, mais je vais revenir après.
J'aimerais juste répondre à Monsieur Loubet rapidement
par rapport à mon retard.
Parce qu'il dit que quand on a eu du retard, on n'a pas le droit de s'exprimer. J'aimerais juste dire
Je dis que ce n'est pas respectueux.
Si tu réponds pas à la question, laisse-le parler.
Que j'étais sur mon lieu de travail. L'heure habituelle à laquelle je finis, j'aurais dû être à l'heure.
Fallait le dire.
Non, mais écoutez-moi, écoutez-moi, monsieur Loubet. Écoutez-moi. Il y a un enfant qui a eu un problème sur mon lieu de travail, qui était blessé. Et donc, j'ai attendu que les parents arrivent pour voir avec eux la suite à donner à cette affaire.
D'accord. C'est très bien.
Non, j'aimerais juste dire, quand on ne sait pas, monsieur Loubet, on se fait.
Fallait passer un coup de fil, nous prévenir. On se faisait du souci, la chaise était vide.
On interrogeait monsieur Bayrou, il n'y avait personne pour répondre.
Je sais que tous les jours, vous
êtes. Comme dirait Pierre-André, monsieur Loubet, si vous me permettez de reprendre la parole, je voudrais poser une question. Alors, tout d'abord. À ces deux demoiselles, alors je pense que c'est un signe du Parti Socialiste et puis du Front de Gauche, pour vous, l'une, l'autre, c'est quoi être de droite ?
Eh ben...
Quelle question ! Qu'est-ce qu'être de droite ? Eh bien, écoutez, au vu de ce que j'ai pu constater de la part de nos dirigeants à droite... Eh bien, je dirais que... Bon, vous savez, au niveau des valeurs, les valeurs, c'est chacun... Chacun se fait une idée des valeurs qu'on défend. Il est évident que je ne porte pas les mêmes valeurs que Romain dans son quotidien, mais pour moi, être de droite, c'est avant tout défendre, de ce que j'ai pu constater en tout cas, durant ces 10 dernières années, c'est de défendre l'intérêt d'une minorité et ce, au détriment de l'intérêt général. Voilà, principalement.
Clara, c'est quoi être de droite ?
Je peux pas dire le contraire, je suis assez d'accord avec ce que Mary vient de dire. Mais en plus, pour moi, être de droite, c'est souvent, et actuellement, c'est relativement le cas, c'est nier les réalités concrètes du terrain, et c'est en plus ne rien faire pour améliorer la situation et ne rien faire pour améliorer le vivre ensemble, ce dont on parlait au début avec Mary.
Alors, voilà, on va...
Pour moi.
Vous voulez savoir ce que c'est que d'être de gauche ?
On va poser la question à Lambert.
Il est pressé. Et donc,
à Romain et à Pascal, chacun son
tour.
On va commencer à Pascal. Alors Pascal, c'est quoi Romain, oui, pour l'UMP. Oui.
Oh, il devient
non, de non, blanc. Je sais que l'alliance n'a pas encore été faite, ce sera peut-être pour les législatives. Mais
non,
je déconne. Bon. Alors, c'est quoi être de gauche, Romain? Alors. Pour l'UMP.
Pour moi, c'est être utopiste. C'est pas avoir le sens des responsabilités. C'est vouloir des choses, mais se voiler la face et ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Et pour moi, être de droite, puisque bah, bon,
les gens ne rêvent pas que des cauchemars.
Mais qu'ils fassent pas des cauchemars, mais qu'ils regardent, qu'ils soient réveillés tout simplement, et qu'ils regardent la société comme elle est aujourd'hui, et qu'ils essayent de l'améliorer dans la mesure du possible, mais qu'ils fassent pas des rêves éveillés en pensant qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est tout. Voilà, quelle pour moi, être de droite, c'est avoir le sens des responsabilités, des valeurs de travail, de mérite.
Ça, j'ai demandé à Mary et puis à Clara. Alors, Pascal, c'est quoi être de gauche ?
Quelle démagogie d'alimenter un climat.
Non, Pascal, d'un parti tel que le vôtre,
je veux répondre à la question qu'est-ce que c'est être de droite et qu'est-ce que c'est être de gauche ? Non, je le ferai.
Vous n'êtes pas de droite. Pour moi, les extrêmes ne sont ni de droite ni de gauche.
D'abord, nous ne sommes pas d'extrême. Il y a des partis,
il y a de véritables partis d'extrême.
Être de gauche, voilà. Être de gauche, c'est alimenter, c'est alimenter la préférence vis-à-vis de l'étranger. Et d'ailleurs, ça a été démontré. Ça a été démontré hier.
Mais je la rends celle-ci.
Voilà. Mais hier, ça a été extraordinaire de voir l'intervention de Jean-Luc Mélenchon,
qui annonçait. Passé, hein.
Ah non, mais moi personnellement,
vous y êtes fidèle,
moi personnellement, j'adhérais.
J'adhérais
majoritairement aux propos du Parti communiste qui défendait l'ouvrier. Mais hier, on a vu malheureusement que ce n'était absolument plus le cas. Jean-Luc Mélenchon, qui dit ouvertement « Cessez de me parler de Georges Marchais, je n'en ai rien à faire. » Georges Marchais, celui qui défendait l'ouvrier, c'est dur à encaisser. C'est pour ça que je vous ai dit au début de cette émission que vous n'êtes pas rancunière, vraiment.
Alors, j'aimerais
aller un tout petit peu plus loin. Je vais faire exactement la même critique à ceux qui se disent de droite, c'est-à-dire qu'ils défendent une élite à part, qui se sont coupés du peuple depuis trop longtemps.
C'est pas la question.
Ni droite, ni gauche, au Front National.
Ah oui, mais non, mais justement, non, j'ai la question au centre. Est-ce qu'on peut avoir raison contre tout le monde ?
Avoir raison contre tout le monde, je sais pas. Bon.
Est-ce qu'on peut être de droite et de gauche en même temps ?
Non.
Ce n'est pas possible.
Vous me parlez de droite, c'est compliqué. Pour moi, il y a différentes personnalités qui peuvent être étiquetées de gauche ou de droite et qui pourront être d'excellents politiciens. Au-delà de ça, est-ce qu'on peut être de droite et de gauche en même temps ? Enfin, le grand écart paraît compliqué.
Non. Est-ce qu'on peut avoir raison contre tout le monde ?
Est-ce qu'on peut avoir raison contre tout le monde ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, sûrement.
Puisque, a priori, 50% de Français sont de gauche, 50% sont de droite.
J'aimerais préciser quelque chose dans cette...
Est-ce qu'on peut avoir raison contre tout le monde ?
Il y a quelque chose qui me semble très, très étrange dans cette campagne, c'est qu'en même temps, on dit « Oui, François Bayrou, il n'est pas populaire, il passe mal dans les médias, etc. »
François Bayrou, il se présente.
Et d'un autre côté, la plupart de ces thématiques principales de campagne ont été reprises par d'autres partis politiques. Je reprendrai le thème de la dette.
C'est original.
Je reprendrai le thème de la morale. Je reprendrai le thème de la
ce qui avait été pris, ce qui avait été pris avant par Marine Le Pen. Oui, effectivement.
Ça a été pris par tout le monde. Ça, c'est pas...
Non, mais... donc ça a été repris par tout le monde. Alors que Bayrou,
alors que Monsieur Bayrou était traité de fou. C'est que ces demoiselles ne sont pas machistes.
La moralisation de la vie politique.
Laisse la parole aux autres.
C'est une question de respect.
J'arrive jamais à finir mes phrases. C'est assez incroyable.
Encore faut-il qu'ils soient respectables tous.
La moralisation de la vie politique, le permis de conduire. Etc.
Tout ce dont on a parlé.
C'est ça qui est assez intéressant. D'un côté, on dit non, mais il est tout seul. Ses idées, c'est pas tellement ça.
Je le trouve pas si seul que ça. Je le trouve en très bon accord avec le reste des candidats. Mais bon.
Oui. Les autres candidats deviennent petit à petit en accord avec ses idées.
À chaque élection présidentielle, vous vous sentez plus proche de l'un ou plus proche de l'autre.
Oui.
Bon, ça. Alors, ça change au gré des vents.
On tous un chèque. Ce qui est.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.